Salut tout le monde, bonjour, bonjour, comment ça va bien? Vous me recevez bien ce matin? Je vous préviens, je suis explosé, fatigué, j'ai très peu dormi, la chaleur m'a tué. J'espère arriver jusqu'au bout de ce Texcope. Je ne suis pas certain. Je me sens mais presque malade. 5 sur 5, nickel. Merci Samuel. Bonjour à tous. Salut Olek. Lien de la dernière vidéo. Légionnaire ce matin, et oui, et la petite coupe fraîche, spéciale canicule, pour éviter les petites gouttes de sueur qui perlent au bout des mèches. Légionnaire quand même pas. Hein. Je l'ai eu la boule à zéro. Hein. Je sais ce que c'est. Hein. Tu as trouvé une astuce pour tenir la chaleur. Tu vis dans ton bain. Voilà, c'est une idée. J'avoue que hier soir, j'ai dû passer 2 heures dans un bain froid, je crois. Eh oui, il faut bien que je m'hydrate comme les petits vieux. Hein. Mais c'est bon, j'ai mon gros porg plein de breuvages. C'est du thé froid ce matin. Comment tu fais pour être réveillé à 8 heures? Mais c'est pas à 8 heures que je me réveille, c'est à 6 heures. Genre, je me lève, vous imaginez, je me lève, j'allume la caméra. Bim! Bonjour! Et je me lève à 6 heures tous les matins pour vous. Eh oui, c'est pas d'abnégation. Allez, en parlant d'abnégation, on va remercier nos contributeurs du jour aujourd'hui. Thomas, Perceval, Anthony, Tahiti Bob et Révéane, merci à vous les contributeurs sans qui nous ne serions pas là. J'ai besoin de vous ce matin pour tenir ce Texcope, enfin me réveiller entre deux articles. J'ai qu'une envie, c'est de dormir en fait. J'espère que ta connexion va rester stable. Ben, j'espère aussi pour vous. Pas mal de problèmes électriques hein, aujourd'hui, ce matin aussi. À la serviette mouillée sur le lit et un ventilo. Alors moi, j'avais inventé mieux. Je ne l'ai pas fait cette année. Le climatiseur de MacGyver, comme je l'appelais, mieux que la serviette éponge. Tu prends un peignoir à capuche. La capuche du peignoir, tu la remplis de glaçons. Tu mets tout ça sur une chaise avec le ventilo derrière. Les glaçons vont fondre lentement dans le tissu éponge de ton peignoir, et du coup, ça durera encore plus longtemps, ton système de climatisation. Malin, hein ? Non, mais ça marche. Bon, par contre, ça nique ton parquet si tu ne protèges pas, hein, parce qu'il y a tout qui coule sur ton parquet. Mais ça marche. Il est possible que, oui, il y ait des noms qui reviennent, parce que, en fait, comme on remercie par nombre de mois et qu'en ce moment, on a pas mal de contributeurs. On vous remercie d'ailleurs. Il y en a qui reviennent plusieurs fois. C'est normal. Tu as du carrelage. C'est nickel. Sinon, il existe des clims. Ouais, mais une bonne clim, ça vaut minimum 700-800 euros. Hein ? Préfère s'acheter un smartphone. Non, mais je vous jure que mon peignoir à capuchon avec des glaçons, ça marche très, très bien. Bon, allez, on s'en fout, quoique c'est des petits conseils utiles hein, par ces temps de canicule. De quoi on va parler ce matin? On va parler de l'iPhone XS. Et oui, ça y est, on aurait les noms. Ça va être l'XS, l'XS Plus et le 9. Donc, on en reparlera un petit peu. On va parler de... Ah merde, c'est tout dans le désordre. On va parler d'Android Pie. Et oui, ça y est, c'est officiel. Le nom, c'est Pie et c'est pas Peppermint, comme je pensais. Android 9, les principales nouveautés de cette OS à connaître. On parlera également, vraiment tout est dans le désordre, on fera celui-là. On parlera de Blablacar qui a acquis son concurrent russe, Bipcar. Donc, expansion de Blablacar en Russie. On parlera également d'Alex Jones. Alex Jones, le célèbre complotiste, le fondateur d'InfoWars aux États-Unis. Vous avez peut-être déjà vu sa tête, il a une tête fort sympathique. Hein, on a tout de suite envie d'être pote avec lui. Les géants du web passent à l'offensive contre lui. Sa chaîne YouTube, sa page Facebook, jusqu'à son compte Pinterest viennent d'être bloqués. On reviendra un petit peu sur cette affaire aux États-Unis. On parlera également d'une intelligence artificielle qui a battu une équipe de joueurs professionnels à Dota 2. Et ils ont du mal à s'en remettre, les joueurs professionnels. Et on parlera ensuite d'une recherche allemande qui a fait une recherche de notre rapport par rapport aux robots. Et quand un robot vous demande vous supplie même de ne pas l'éteindre, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, justement, on aura le résultat un petit peu de cette étude. Ça ne va pas être de la tarte d'installer Android. Pas mal, pas mal, pas mal. La clim, c'est pas top pour l'environnement. C'est pas faux non plus. On a rajeuni Jérôme. Mais non, c'est juste mes cheveux qu'on a enlevés. Donc, il y a moins de cheveux blancs. Mais ils sont encore là, rassurez-vous. Ils reviennent très, très bientôt. Pour votre plus grand plaisir. Pas de coupure. Il y a des coupures chez certains. Est-ce que tout le monde a une connexion à peu près potable, à part, je sais, ceux qui ont des problèmes de framerate, mais je n'ai pas encore mis au point un système pour améliorer ça. 5 sur 5, vous recevez bien. Bon, bah, c'est nickel. Allez, on va commencer tout de suite les articles. On va parler effectivement de l'iPhone 2018. Les noms commerciaux des iPhones se précisent. Alors, selon les numériques qui l'ont pris d'une source américaine, le nom des iPhones serait l'iPhone XS, XS Plus et iPhone 9. Mon Dieu, quelle révolution! Alors, l'XS aurait un écran de 5,8 en OLED, un dos en verre, il se chargerait effectivement en wireless et il aurait une double caméra. Le XS Plus aurait, lui, un écran de 6,5 pouces OLED. Toujours avec le dos en verre, toujours wireless, double caméra. Et le 9, qui a priori sera le moins cher des trois, ça sera un écran de 6,1 pouces, mais en LCD, avec un dos en verre, le chargement sans fil, mais par contre, une seule caméra. C'est comme ça qu'on les différencia. C'est le bordel, leur numérotation. Pas tant que ça. C'est juste mettre un S derrière le 10, quoi, en fait. Donc, mais ça donne XS, un excès d'argent. Oui, à mon avis, le 9, ça sera le 8 remanié. Ce sera dans ces eaux-là, quoi, on va dire. Après, ça permet de boucher le trou qu'il y avait dans la gamme, hein, de sortir un 9. Alors, qu'est-ce qu'ils vont avoir de révolutionnaire? Probablement rien. Je pense très honnêtement, enfin, je vous donne mes pronostics. Je pense que ces iPhones seront des améliorations. Ils auront tous l'encoche. Ils auront tous le Face ID, à mon avis, même le modèle le moins cher. Ça sera peut-être la chose la plus intéressante. Finalement, l'enjeu, ça sera plutôt de voir est-ce que le 9 est un smartphone intéressant ou complètement en repli. Est-ce que le XS sera encore plus cher que le X? Je ne suis pas certain qu'il y ait peut-être au niveau de la photo des améliorations, mais en tout cas, Apple n'a manifestement pas choisi la voie de multiplier encore plus les capteurs et les optiques. Ils n'en ont pas mis trois. Est-ce qu'il y aura une amélioration quand même au niveau de la photo? Tout ça, on le verra plus tôt. Ça se dirait pas plutôt 10S? Bah, comme vous voulez. Moi, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de dire l'iPhone X. J'ai toujours eu du mal à dire l'iPhone 10, mais bon. Ça dépend. Donc, on va dire 10S si ça vous perturbe moins. L'iPhone M. En chiffres romains. En tout cas, on a vu effectivement des petites vidéos sortir aussi, les montrant un petit peu plus. Je vais vous montrer un petit peu la vidéo en coupant le son. On a vu un petit peu à quoi ils allaient ressembler. Là aussi, hein, de grosses, grosses surprises. Rien ne ressemble plus à un iPhone qu'un iPhone hein, en ce moment. Mais voilà à peu près à quoi il ressemblait. Après, bon, on ne va pas cracher dans la soupe. Personnellement, j'aime beaucoup le design de l'iPhone X et 8, selon. Et il est prévu à quand l'iPhone XL, une grande frite coca. Le méga iPhone. Après, est-ce que... alors, je ne sais pas. Dans les petits sondages, ceux qui ont un iPhone X, est-ce que vous regrettez la grande taille? Moi, ce retour à la grande taille, je ne suis pas certain de retourner à des grandes tailles. J'ai beaucoup aimé, avec ce plus d'un an, cette année passée avec l'iPhone X, la taille de l'iPhone X. J'ai pas forcément envie de retourner à quelque chose de plus grand. Pas d'iPhone SE. Bah, a priori, ça sera un peu l'iPhone 9 qui sera l'iPhone SE. À mon avis, il sera un prix plus compétitif, on va dire. Non, mais je vais quand même le prendre plus grand. D'accord. Moi, s'il n'y a pas d'autre différence que la batterie et les capteurs, parce que je suis très content de la batterie de l'iPhone X, je suis pas certain de passer à un plus. Toi, la grande taille te manque, Benjamin, d'accord. Perso, je pense, bon, je vous fais déjà le test hein, de l'iPhone XS. Je voulais vraiment changer d'iPhone, c'est une année sur deux, mais changer tous les ans, faut vraiment être testeur sur une chaîne YouTube pour faire ce genre de truc. Enfin, moi je dis ça, après chacun fait ce qu'il veut avec son argent, hein. Le mode paysage, c'est pas faux. J'aimais bien sur le plus. C'est un des rares trucs que j'aimais vraiment sur le plus et qui me manque un peu sur l'iPhone X. C'était le mode paysage quand tu faisais une rotation. C'est vrai. Change d'iPhone uniquement si c'est la double SIM. Les rumeurs parlent d'une double SIM, mais ça serait peut-être que pour le marché asiatique. Je sais pas. Je sais pas si Apple va mettre un truc à double SIM. C'est pas trop dans leur philosophie. Est-ce qu'ils nous mettraient, ce qui serait assez révolutionnaire, c'est de nous mettre une SIM directement intégrée dans le smartphone. Mais je sais pas s'ils sont encore prêts pour ce bras de fer avec les opérateurs. On verra, on verra. Est-ce que le Face ID va être accéléré? Honnêtement, malgré tous les tests qui disaient que c'était un peu moins rapide, honnêtement, moi, je n'ai pas besoin d'un Face ID plus rapide. Hein. Je le trouve suffisamment rapide. Après, bon, bah, s'il est plus rapide, on ne crachera pas dans la soupe, mais en tout cas, il ne me gêne absolument pas. Je ne sens pas de lenteur avec le Face ID, hein, personnellement. Ça serait une deuxième SIM électronique. Apparemment, c'est dans la bêta iOS 12. Ah, intéressant comme info. Le Face ID à l'horizontale, ça, c'est vrai que... Enfin, c'est surtout dans l'iPad que ça me fait peur, cette histoire de Face ID qui marcherait dans les deux sens, quoi. Personnellement. Tu trouves Face ID plus rapide avec iOS 12? J'ai pas encore mis la bêta sur mon iPhone. J'attends. Je suis un peu parano avec les bêtas sur mon iPhone. Je l'ai mis sur mon iPad, mais comme il n'a pas Face ID, j'ai pas pu tester. Ouais, un Face ID en mode paysage, ça serait vraiment bien. Moi, en tout cas, j'avoue que ça me saoulerait carrément un iPad, je l'ai déjà dit, qui n'aurait pas le Face ID en mode paysage, quoi. Quelqu'un a essayé d'enregistrer le deuxième visage de Face ID en horizontal. Ah ouais, ça serait une expérience à faire. Sur iPad, ce serait pertinent, voire obligatoire de faire Face ID dans les deux sens. Ouais, mais les rumeurs ont tendance à dire qu'Apple a un peu prévu un iPad qu'on déloquerait que à l'horizontale, ce qui me fait très très peur. Enfin bref, voilà pour les rumeurs du jour. Hein. On aura la confirmation de tout ça dans pas très très longtemps. Hein. Normalement, en septembre, il devrait y avoir la keynote. Non, j'ai pas la date, je suis pas dans les petits papiers de chez Apple. Oui, non, j'ai eu une mauvaise expérience, je ne sais plus avec quel numéro d'iOS, d'avoir installé trop vite la bêta sur mon iPhone. C'est quand même un outil de travail pour moi et je peux même permettre des plantages et ce genre de choses, quoi. Première semaine de septembre, ouais, on verra. Normalement, oui, c'est plutôt dans ces eaux-là. La keynote sera le 12 septembre. Bon, ben, Centaure nous l'a dit, c'est le 12 septembre. Mais c'est vrai que c'est dans ces eaux-là, hein, généralement. Allez, on continue dans les news. Cette fois, on va parler d'Android. Hein. Aujourd'hui, on en a pour les deux camps. Hein. Android, Android Pie arrive, ça y est, c'est officiel. Le nom ne déroge pas à la règle. Ça reste une sucrerie. Enfin, il y a des tartes salées, hein. Moi, je dirais que, hein, et la tarte au concombre, hein, c'est pas bon, hein, pour ceux qui connaissent. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des tartes salées. Je trouve que là, moi, je l'aurais appelé peppermint. C'est plus joli, peppermint. Installer 33% des devices dans 3 ans. Ouais, c'est bon, on va pas revenir sur les problèmes, effectivement, d'Android qui n'est pas installé de manière homogène sur les smartphones. Le Pixel 3 qui devrait arriver, est-ce qu'il arrivera en France? Ça va être le seul suspense qu'on va avoir. Quels sont, on va les refaire quand même, les nouveautés d'Android 9, donc Android Pie. Il y aura bien évidemment le support de l'encoche, puisque tout le monde s'est mis à l'encoche après l'avoir critiqué. Enfin, tout le monde, presque tout le monde s'est mis à l'encoche. Beaucoup d'Android ont des encoches et cette fois, ça sera intégré dans le système. Donc, ça permettra aux développeurs de simuler l'affichage avec encoche et de déterminer s'il est nécessaire d'adapter l'affichage de leur application. Voilà, une batterie intelligente avec du deep learning qui permettra effectivement un usage plus intelligent de la batterie, ça c'est assez intéressant, et qui va prioriser justement sa consommation pour les applications et les services que vous utilisez le plus. Donc, une adaptation de la batterie à la manière dont vous utilisez le smartphone. On verra si ça a des résultats probants hein, sur la durée de vie d'une charge. Mais en tout cas, sur papier, c'est intéressant. Une luminosité automatique aussi plus intelligente. Ça, c'est vrai que c'est un progrès que pourraient faire tous les fabricants de smartphones. Il y a une pseudo-détection de la luminosité, mais c'est pas toujours hyper bien foutu. Là, c'est vrai que on pourrait avoir quelque chose qui reconnaît vraiment les types d'environnement et qui adapte, peut-être même en nous proposant des préférences selon les différents environnements lumineux qu'on a, pour finalement s'adapter automatiquement et qu'on n'ait plus à changer le réglage de la luminosité. J'ai fait ma première chute en trottinette. Bien fait de gaffe, t'as un genou qui a doublé de volume. Ouais, attention Benjamin. Aussi smart soit la trottinette, ça reste une trottinette. Trottinette, ça reste deux roues sur une planche. Et un truc qui roule, forcément, on peut tomber. Forcément. J'attends les Xiaomi au niveau des trottinettes. Sinon, il y aura également App Action. Ça sera une anticipation un petit peu de vos actions. Par exemple, quand vous branchez vos écouteurs, on sait très bien que quand vous branchez vos écouteurs, c'est pas pour lire Flipboard. Donc, votre Android vous proposera plus spontanément, par exemple, une ouverture d'une playlist sur votre logiciel de stream musical préféré. Bref, une espèce d'intelligence qui va préempter un petit peu vos désirs par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Un peu pareil, on pourrait imaginer que de prendre un Android pourrait détecter qu'on prend son smartphone comme ça, donc on a peut-être envie de faire une photo, il pourrait se lancer ou je sais pas, on pourrait par des gestes et de l'utilisation de notre... Pareil, il y avait ça existe depuis assez longtemps, mais c'est un truc qui manque par exemple sur iOS. Quand on met son téléphone à plat d'un côté ou de l'autre, ça peut déclencher des actions différentes, quoi. Il y aura également des tranches d'applications, puisque effectivement des informations sur votre application pourront apparaître quand vous faites une recherche. Par exemple, si vous cherchez Uber dans les applications, il pourrait avoir une portion de l'écran qui pourrait être occupée par des informations liées à Uber, avec la distance du VTC le plus proche, le temps de parcours pour le domicile, le travail et le prix, des espèces de notifications contextuelles qui apparaîtront sur l'écran, en fait, ce qui peut être assez pratique aussi. Un centre de notification qui va être vu de fond en comble, avec des notifications plus intelligentes, avec plus d'informations dedans. Un tableau de bord qui va permettre d'avoir des statistiques d'utilisation, effectivement, des applications que vous installez, et ainsi que des données sur l'usage général du téléphone. Vous pourrez même avoir des minuteries d'applications qui vont vous permettre de limiter, et là on pense notamment au contrôle parental, limiter le temps d'usage d'un Fortnite mobile par exemple, ou de n'importe quelle application, pouvoir en limiter l'usage, et le compteur est réinitialisé à minuit et l'icône de l'application devient grisée lorsque vous êtes très près de votre limite, jusqu'à bloquer. Dans le cas où vous lui demandez, l'application ne permettant pas d'ouvrir au-delà de la limite de temps autorisée. Ce qui peut être pas mal aussi, pas mal d'outils pour reprendre un petit peu la main sur notre consommation mobile ou pour mieux contrôler celle de nos enfants aussi. Un mode wind down, en fait, c'est un peu le mode nocturne qu'on a déjà sur iOS qui va permettre effectivement d'activer un affichage nocturne quand il fait sombre, mais aussi un mode niveau de gris à l'horaire qu'on aura choisi. En fait, l'idée, c'est de diminuer effectivement la fatigue des yeux, surtout avec vos écrans OLED aux couleurs criardes, quand vous êtes plutôt à des heures où il vaut mieux apaiser un petit peu les choses. Bon, après, il y aura plein d'autres modifications, une meilleure géolocalisation en intérieur avec la prise en charge du protocole Wi-Fi IEEE 802.11MC, le support des codecs HDR VP9 profil 2, également le support comme sur l'iPhone du HEIF, le successeur du JPEG pour les images. Des évolutions au niveau de la sécurité comme le TLS par défaut, etc., etc. Pas une énorme mise à jour, mais on va dire avec des petits trucs sympathiques, quoi. Non, c'est pas la température de mon studio hein, qui a là. C'est normalement la température en France. Il prend même pas la température de Paris. Donc, il a dû faire une moyenne française. En fait, Jérôme, tout ce que tu listes, j'ai pu le tester depuis les premières bêtas. Pour moi, c'est du réchauffé. Ben oui, mais vous voulez aller plus vite que la musique. Après, vous êtes là, oh, on n'a plus de surprises, il n'y a plus d'innovation. Mais oui, mais vous mettez des alphas dans vos trucs, vous testez tout avant, vous lisez la moindre rumeur. Ben, bien sûr, on ne peut plus surprendre, hein. C'est comme si vous voyez tous vos cadeaux de Noël avant Noël. Bah, c'est normal, vous n'allez pas avoir de surprise à Noël, quoi. Un peu de discipline. Ne téléchargez pas les bêtas et ne lisez pas les rumeurs. Comme ça, vous aurez des surprises au keynote. Mais je plaisante, mais c'est un peu le problème aujourd'hui. Cette impression du manque d'innovation. Oh, il n'y a plus rien d'excitant. Bah ouais, on sait tout 6 mois avant, quoi. Et 6 mois, je suis gentil, hein. Donc, soit tu spoiles tout, mais si tu spoiles, tu peux pas être déçu derrière de pas avoir de surprise. Oh là là, le Titanic, je connaissais déjà la fin. Chiant. C'est lourd. Mais on pourrait peut-être exister en tester la bêta. Oui, en même temps, je vous connais. Hein. Quand tout le monde aura Android Pie, vous serez déjà un ou deux numéros d'Android plus haut. Oui, cool le Titanic. Ouais. Tu t'es détox des rumeurs grâce à nous. On se trompe aussi, hein. Comme j'ai dit, moi je suis une revue de presse. Quand il y a de la fake news, ben, il y en a qui sont passés. Mais on essaye de réfléchir et de prendre un petit peu de recul. Et justement, enchaînons sans transition au complotiste Alex Jones. Alors, je pense que vous connaissez tous Alex Jones. Je vais vous remontrer sa trombine. On va peut-être regarder un extrait du type de truc qu'il fait. Voilà, Alex Jones, c'est lui, hein, un personnage. C'est la première image hein, qui est remontée sur Google. Hein, c'est pas un choix. Pour vous expliquer un petit peu le personnage, c'est un complotiste. Il a lancé une chaîne radio, web, TV et tout qui s'appelle InfoWars et dessus il fait des nouvelles. Complotiste. Après, ses fans diront « Mais tu dis des choses fausses, tout ce que Dre dit Alex Jones, c'est vrai. » Bref, on va même pas partir dans le débat. Pour vous montrer un petit peu le type de ton du personnage, on va essayer de trouver une vidéo. Bon, je vais me faire ban, je vais prendre ma vidéo de 20 minutes qui explique qui... Attends. Non, alors ça va pas marcher. InfoWars en français. Qu'est-ce que ça va nous donner ça? On va regarder un petit morceau. Oula! Voilà. It could, quote, reduce to zero economic dependency on the U.S., stop using the dollar, and pull out of business deals with the, quote, United States. The globalists don't care. That'll just depress both Russian and U.S. markets, which allows the globalists... Je sais pas si vous entendez sa voix. ...further consolidate control. That's why Wall Street said, go ahead, do it. We'll just inflate our own systems. Of course, that may be an empty threat, because even though the stock market's rigged, it went down a lot yesterday on concerns, and so they kind of backed off a little bit as well. Bon, enfin bref, là il est calme. Généralement, c'est quelqu'un qui s'énerve assez vite et qui est accusé par beaucoup d'autres médias, effectivement, de propager beaucoup de théories complotistes. Merde, j'aurais pu l'arrêter. Il a pris le contrôle de mon iPad. Beaucoup de théories complotistes et notamment récemment dans la presse américaine. Il a, pour la fusillade de Sandy Hook en 2018, à de multiples reprises, une fusillade qui a fait 26 morts, dont 20 enfants, Alex Jones prétend que ce massacre est une mise en scène organisée par la gauche américaine pour interdire le port d'armes. Donc, lui, il est effectivement pro-armes, etc. Donc, plusieurs familles ont assigné Alex Jones en justice. Il faut savoir quand même que ces chaînes ont une très grosse audience qu'il a eu, en tout cas au début du mandat de Donald Trump, un soutien actif de Donald Trump qui a dit que InfoWars était une de ses chaînes préférées. Je suis pas en train de voilà de parler politique, je parle de faits, voilà. Il est quand même très connu pour sa glorification de la violence et un langage très déshumanisant. Eh bien, en fait, les géants du web ont un peu tous réagi hier. Targuant effectivement que il était allé trop loin et que ça il n'était plus dans les clous des lines d'utilisation et il transmettait des messages haineux. Facebook a également bloqué sa page. Quand même Pinterest bloque. Twitter l'a pas suspendu. On sait que Twitter est encore plus que tous les réseaux sociaux très à cheval sur les libertés d'expression. Il en faut beaucoup quand même pour être bloqué. C'est déjà arrivé, hein. Et donc c'est pas exclu. Il a déjà été bloqué, hein, Alex Jones, par Twitter, mais là il l'est pas. Également, iTunes, on ne trouve plus les podcasts d'Alex Jones et Spotify bloque également ses émissions de radio. Donc, il y a eu un petit peu un... Alors, est-ce qu'ils se sont entendus entre eux, ces géants du web, pour passer à l'offensive en même temps contre Alex Jones et un peu le bâillonner ? Je sais pas. C'est vrai que Facebook s'est vraiment fait attaquer ces derniers temps, notamment sur les théories qu'Alex Jones propage à travers sa page Facebook. Ça a peut-être fait monter les moutardes au nez quand même de Mark Zuckerberg qui a dit « ça suffit ». Le truc qui est très dangereux dans ce qu'ils sont en train de faire, de bâillonner un mec comme ça, après, on verra. Hein. Ils ont peut-être pas forcément le choix. C'est vrai que ce mec a quand même des messages de haine. Allez écouter quelques-unes de ses émissions. Faites-vous votre propre opinion. Hein. Moi, je vous donne la mienne. Pour moi, c'est un sombre poujadiste qui manie le fiel parce que c'est un des plus bas instincts de l'homme, la peur et le fiel, pour se faire une audience. C'est normal qu'un mec comme ça marche. Ça me surprend, mais alors pas du tout. Des poujadistes et des populistes comme lui, ça existe depuis que l'humanité existe. C'est des mecs qui tirent, qui utilisent des ficelles assez faciles. C'est mon opinion, hein, qu'on commence pas à mettre des messages enflammés de tous les royalistes et tous les autres trucs de France. Qui trouve que Alex Jones, c'est plutôt quelqu'un qui dit la vérité. C'est votre opinion, j'ai la mienne. J'ai le droit aussi d'avoir mon opinion. Voilà. Tout ça pour dire, le danger avec ce genre de mec, c'est que ce genre de mec s'épanouit ce genre de théorie aime beaucoup, théorie du complot, aime beaucoup être attaqué, en fait. Parce que ils ont le complexe Jeanne d'Arc. C'est « Oh mon Dieu, on veut étouffer ma vérité, on veut m'empêcher de parler. » Eux qui, dans leur programme, entre guillemets, politique, sont les premiers à vouloir annihiler la liberté d'expression, c'est les premiers à dire « Oh, mais on m'empêche de parler, et pourtant on est en démocratie, normalement, liberté d'expression, etc. » T'as envie de leur dire « Mais mec, regarde ton programme politique, la liberté d'expression, tu veux la fusiller, quoi. Et tu viens nous parler. » Enfin bon, bref, je rentre même pas dans ce débat. Mais voilà, ils aiment beaucoup, en fait, être martyrisés. C'est la position dans laquelle ils sont le plus confortables. On en connaît en France, hein, des comme ça, on va pas les citer. Mais c'est vrai que à le bloquer, on prend un réel danger de renforcer finalement ceux qui le soutiennent, quoi. J'ai pas lu ce que vous disiez dans les commentaires, j'ai fait exprès. Hier, on a passé flagornerie, aujourd'hui poujadiste. Il n'y a pas à dire, on diffuse la culture ici. Enfin, poujadiste, vous connaissez Poujad. D'ailleurs, c'est français, hein, Poujad. Allez lire vos livres d'histoire. Le truc, c'est que on pourrait dire, ouais, est-ce que c'est pas une mauvaise chose de le bloquer parce que justement, il va s'épanouir dans ce blocage. En même temps, voilà, les réseaux sociaux, YouTube, ils ont des règles. Et la propagation de messages haineux, incitant à la haine, racistes, etc., sont interdits. Donc, ça serait aussi aller à l'encontre de leurs règles que de le laisser continuer à faire ça. C'est complexe hein, comme situation. Pierre Poujade. Exactement. Oui, j'ai dit Poujade, mais c'est Pierre Poujade. Merci. Ben, ça sert à rien de le bloquer. En même temps, si le mec a enfreint les règles, des règles, elles doivent être respectées. Parce que sinon, en fait, le problème avec ces mecs-là, c'est que c'est pas des mecs bêtes. C'est plutôt des gens intelligents. Et ils vont toujours, toujours chercher la faille dans ton système. Si tu les attaques trop, ils vont dire « Oh, mon Dieu, on m'attaque. Oh, laissez-moi m'exprimer. » Si tu les laisses faire, ils vont surenchérir. En fait, ils vont te pousser généralement à la défensive, à les attaquer. Ils vont pousser le bouchon trop loin jusqu'à ce que tu sois obligé de réagir. C'est leur technique préférée, en fait, de déstabilisation. C'est de te pousser à la faute, en fait. Parce que ils s'épanouissent dans ce type de polémique et dans ce type de martyr, ils adorent ça. Et c'est comme ça que leur message passe le mieux. Quand tu racontes ce qui pour moi est d'énormes mensonges, tu vas donner beaucoup plus de poids à ton discours en disant mais on essaye d'étouffer ma vérité en racontant une énorme connerie. Car la Terre est plate et justement, il y a un complot de tous les rondistes qui essayent de nous faire croire. Et c'est un complot, ils veulent nous bâillonner. Regardez, preuve en est, hier, Google a fait une mise à jour de Google Maps pour nous imposer la vision rondiste du monde. C'est un scandale, on s'acharne contre nous parce qu'on a raison, mais ça fait peur. Putain, je vais me lancer dans une nouvelle carrière. Le Alex Jones français. Putain, je vous garantis que je ferai beaucoup plus d'audience qu'avec Dexcop. Hein. Je crois pas une seconde que ce soit un mec intelligent. Sous-estime jamais ces mecs-là. Ne les sous-estime jamais. Parfois, c'est souvent des gros opportunistes parce qu'ils ne croient pas un mot de ce qu'ils racontent, mais ils savent que c'est des choses qui marchent très bien. Alors, tu vois, Francis, justement, ta phrase, pour moi, c'est l'exemple type. Alors, il vaut mieux la censure que le débat d'idées. Tu vois, tu passes tout de suite d'un extrême à l'autre. Désolé, hein, mais ton message dans la chatroom m'interpelle. Est-ce que tu crois vraiment que des mecs comme Alex Jones cherchent le débat? Là, je te pose la question. Si tu as regardé ces émissions, est-ce que c'est quelqu'un qui aime le débat? Ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va dire « Mais on m'empêche de parler, on empêche le débat. » La chatroom en ébullition dès qu'on parle de complot gouvernemental. C'est quand tu fixes des règles sur un média, quand tu dis, par exemple, et c'est des règles, c'est même des lois chez nous en France, les messages à caractère raciste ou incitant à la haine sont interdits sur la plateforme. Et que tu as une vidéo qui a carrément un caractère raciste ou incitant à la haine et qu'on te la bloque. Est-ce que c'est de la censure ou pas? Je pose la question sereinement à la chatroom. Est-ce que quand une vidéo outrepasse des règles qui sont fixées par une plateforme, on peut crier à la censure ou pas? Désolé, hein, Francis, hein, je t'ai pris à partie tout à l'heure, mais tu m'as tendu une perche. Hein. Alors, effectivement, après, on peut débattre. Est-ce que le racisme est une opinion ou un délit? En tout cas, en France, c'est un délit. Est-ce qu'il faut changer les lois? J'en sais rien. Mais dans les faits, aujourd'hui, dans la loi telle qu'elle est écrite, le racisme est un délit. Voilà. C'est pas de la censure si c'est la loi. Ouais, mais voilà, j'aimerais faire l'avocat du diable. En même temps, regardez d'autres gouvernements qu'on a eu en France. l'application des lois était une forme de censure. Regardez, dans des pays totalitaires comme la Chine, il y a des règles qui empêchent les gens de parler. Donc, on parle bien de censure d'État. Donc, vous voyez, c'est des débats complexes. Là, je vous ai mené dans un piège. Est-ce que vous êtes tous là ? Ben non, si les règles l'interdisent et que la vidéo sort, ce n'est pas de la censure. Ben si, quand même, on peut parler de censure. Parce que finalement, c'est YouTube qui décide des règles. Mais est-ce qu'il y a eu un débat autour de ces règles ? Et c'est des débats de philo qui pourraient durer très très longtemps. Hein. Après, j'ai envie de dire jusqu'à preuve du contraire, YouTube, Facebook, Instagram, d'autres sont des plateformes privées. Une entreprise a le droit de fixer les règles du type de vidéo qu'elle héberge. Donc, le mec qui s'égosille en disant « on me censure, j'ai pas le droit d'être sur YouTube », bah, on a envie de lui dire « monte ton YouTube, personne ne te l'interdit ». Voilà, une plateforme privée a le droit, comme n'importe quelle propriété privée, d'accepter des gens et de refuser des gens. On ne peut pas crier à la censure d'État, quoi. Il a fallu qu'un Trump soit au pouvoir pour que les réseaux sociaux réagissent, pourquoi pas avant. C'est pas vrai non plus, hein, ça, Francis. Hein. Il y a déjà eu pas mal d'histoires avant l'arrivée de Trump. Hein. Voilà, tu as une charte, en fait. Un débat de philo peut durer des millénaires. Et tant mieux, il faut toujours que le débat reste ouvert. Pas à ce point. Bah, Francis, si tu veux vraiment me mener sur ces trucs-là, Trump a quand même une manière de tisonner constamment. Je veux dire, c'est pas un hasard si on parle autant de ces histoires en ce moment. C'est que il adore brasser ça aussi. Hein, et ça remonte tous les jours. Il a un petit truc à faire péter hein, quand même. Hein. Donc, je ne sais pas où ça va nous mener. Après, je suis d'accord avec toi. On a plus de problèmes comme ça. Mais par qui sont-ils vraiment générés ? C'est la question qu'on peut se poser. Clairement, oui, sauf si c'est bloqué, dénoncé aux autorités compétentes. La Terre est plate. Il y a des bas. Il y a des hauts. Allez, un tribunal internaute, il n'y a pas de solution. Enfin, bref, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir qu'ils s'y sont tous mis contre lui en même temps. Donc là, pour le coup, là, il peut parler d'un complot, là. Hein, ils se sont tous passés un coup de fil. Allez, on bloque tous Alex Jones en même temps. Je pense qu'on va l'entendre hurler, là, dans les prochains jours. Sur Twitter, puisqu'il n'est pas encore bloqué sur Twitter. La Terre est ronde, creuse avec un soleil intérieur. Ben, bien sûr. La Terre est bantine. Oh mon Dieu. Mais elle est bonne, elle est bonne. Bon, enfin bref, on a passé beaucoup de temps sur ce, à mon avis, triste personnage. Je ne voudrais pas froisser les fans d'Alex Jones, mais pour moi, c'est un triste sire, un triste personnage. Qui utilisent des... Ça m'énerve qu'on soit encore que d'un point de vue civilisation assez bête pour tomber dans le panneau de ces gens-là, quoi. Mais bon, voilà, c'est moi, c'est mon opinion. Hein, j'habite. Vous n'avez pas le droit de m'attaquer, c'est mon opinion, je respecte la vôtre. Je vais inventer le j'habite politique. Il reste 3 articles. Mets-moi la pression, t'as raison. On va parler de BlaBlaCar, hein, beaucoup moins polémique, puisque BlaBlaCar acquiert son concurrent russe, Bipcar. La plateforme française de covoiturage BlaBlaCar a annoncé lundi l'acquisition de son concurrent russe, Bipcar, lancé il y a 2 ans, dans une opération qui s'accompagne d'un partenariat marketing. En fait, pour vous la faire courte, le géant russe de l'Internet qui s'appelle Mail.ru avait lancé effectivement un système à la BlaBlaCar qui s'appelait Bipcar. Ils marchaient pas très, très bien. Donc, ils sont venus voir les gens de Bipcar pour échanger des idées et savoir comment ça marchait. Et du coup, BlaBlaCar a fait « Bah tiens, si je vous rachetais, hein, ça irait mieux. » Et Bipcar a fait « Oh ouais, ok, dada, et on boit un verre de vodka. » J'adore ma vision de la Russie, pas du tout sectaire et pas du tout Tintin au pays des soviets. Bref, ça va permettre effectivement à BlaBlaCar de s'agrandir. Aujourd'hui, BlaBlaCar, c'est quand même 65 millions d'inscrits dans le monde, 15 millions en Russie, 11 parce que BlaBlaCar s'est aussi lancé en Russie en même temps que Bipcar, et 14 millions en France. En rachetant Bipcar, ils vont pouvoir prendre les 5 millions de Bipcar, mais les gens qui utilisaient Bipcar utilisaient aussi BlaBlaCar, donc ça va pas faire 5 millions de plus, mais ça va permettre d'avoir, voilà, en gros, ils ont racheté un concurrent potentiel, et ils trustent le marché russe pour pouvoir mieux le contrôler. BlaBlaCar mise pas mal sur les pays type Russie, Ukraine, Brésil, parce que c'est des pays où il y a de la croissance, où il y a des vrais leviers de croissance. La France marche très très bien pour BlaBlaCar grâce aux grèves, hein, pour une fois qu'on dit grâce aux grèves, mais c'est vrai que les grèves ont permis vraiment l'extension, l'expansion en tout cas, de services comme BlaBlaCar, les ont fait rentrer dans les mœurs. Aujourd'hui, c'est pas anormal d'utiliser BlaBlaCar, c'est pas un truc de geek. Beaucoup, beaucoup de gens utilisent BlaBlaCar et beaucoup ont été poussés par les grèves à le faire, quoi. Non, a priori, BlaBlaCar ne va pas être taxé par les impôts, puisqu'en théorie, BlaBlaCar, vous répartissez les frais d'un voyage. Vous ne devez pas faire de bénéfice. En tout cas, c'est le calcul de BlaBlaCar. Hein. Ça amortit en fait vos frais de déplacement, BlaBlaCar. Mais ça ne vous fait pas gagner de l'argent, en fait. Non, Jérôme, tu n'es pas raciste, tu ne fais pas dans le cliché. C'est vrai que pour les Russes, j'ai un peu déconné. Là. C'est comme les bus Macron bénéficient des grèves. D'accord. Bon, c'est très politique hein, ce matin, la chatroom. Hein. Bon, c'est peut-être un peu de ma faute, mais... BlaBlaCar, mais où es-tu? Où es-tu? Superbe chanson de France Gall. Blabla. D'accord. Jérôme Kenborg, russophobe. Mais non, c'est pas vrai. De très mal manger en Russie, j'ai mangé très très bien à Saint-Pétersbourg, donc ça m'a beaucoup réconcilié. Alors, ce qui n'est pas faux, j'admets, j'avais, avant d'y aller, une vision très enfant des années 80 de la Russie, URSS, machin. Il faut quand même voir que ma génération, on a été élevé dans la crainte de l'URSS, des méchants communistes avec peut-être pas le couteau entre les dents parce qu'on n'était plus dans cette imagerie-là. Mais moi, mon enfance, c'est des films comme L'Aube Rouge, hein, où les Russes, c'était des méchants, quoi, et des vraiment gros méchants. Donc, c'est ce que je disais à Marion, qui, elle, est beaucoup plus, qui aime beaucoup les pays de l'Est. Elle a fait une partie de ses études en Pologne. J'ai une vision de l'Est un peu passéiste et que j'ai besoin d'y aller justement pour chasser un petit peu et m'ouvrir l'esprit, en fait. Oui, il y avait une vraie menace à l'époque. Hein. Et ben, c'était l'ennemi. Hein. Ma génération, c'est la crainte du Prusse. Jérôme, tu sors. Octobre rouge, ouais, aussi, mais pareil. Non, j'ai pas vu la dernière saison de Homeland. Bientôt Jérôme en Corée du Nord. Mais non, j'en garde un très bon souvenir. J'ai très bien mangé avec le gros Kim Jong. Non, leurs pousses de bambou sont fameuses. Hein. Bon, ils tuent trois paysans pour les faire, mais ça vaut le coup. Hein. Tu sais que le cinéma, c'est de la fiction. Ouais, mais alors vous, les plus jeunes, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que le lavage de cerveau d'État. Mais... les années 80, on était encore dans une guerre froide qui était bien tiède quand même. Hein. Et il y avait des menaces réelles et on nous a quand même pas mal appris que c'était l'ennemi. Hein. Et quand je vous parle de lavage de cerveau d'État, c'est qu'on nous avait construit une image du méchant, quoi. C'était les méchants. Jérôme, il y a le camion de la Farge en bas de chez toi, ils veulent savoir où décharger le gravier. Bah, devant la porte, hein. J'ai un peu l'impression que tu donnes, j'ai bien mangé en Russie, donc la Russie est nickel. J'ai très mal mangé en Allemagne. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire. Et chaque fois que je vais en Allemagne, je mange très mal. J'ai beaucoup de mal. Pourtant, j'aime bien l'Allemagne. Hein. Mais j'ai quand même beaucoup de mal avec les pays où je mange mal. Ah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et un pays où on mange bien, je suis peut-être plus... Ouais, je suis influencé par mon ventre. C'est clair. Ouais, enfin, passer la currywurst, t'as vite fait le tour hein, quand même. Je pense avec mon estomac, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, c'est indéniable que pour connaître la culture d'un pays, c'est important de manger la même chose qu'eux. Et c'est pas toujours facile. La Coupe du Monde en Russie était bien organisée. Ouais, sauf les parapluies, on va dire. Il reste deux sujets. Merci Samuel. Non, c'est même pas Samuel. Pascal, merci pour ton super chat. Si tu invites Jérôme, il faut qu'il mange bien. Ouais. Sinon, je t'aime pas. Les gens qui... Alors, je critique pas les gens qui cuisinent mal parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Mais je viens d'une famille où on n'a pas du tout la culture de la nourriture. Au contraire, mes parents étaient macrobio. Voilà, il n'y avait pas la culture de la très bonne bouffe. Mais moi, au contraire, ça m'a rendu encore plus allumé de ça, quoi. Donc, on parlait de Blablacar, oui, absolument. Bon, ok, je reviens. Il me reste deux articles, fuck. Et il est 54. Bon, on va la faire vite. Une intelligence artificielle a battu une équipe de professionnels à Dota 2 et les professionnels ne s'en remettent pas. Effectivement, c'est intéressant parce que une équipe de réseau neuronal développée par l'organisation d'Elon Musk, OpenAI, a affronté le 25 juin une équipe de joueurs semi-pro dans le jeu en arène. Le jeu Dota n'était pas choisi par hasard parce que là où dans un jeu de Go, vous avez 250 combinaisons, dans un jeu d'échecs, vous avez 35 combinaisons. À chaque fois, il y a plus de 1000 actions possibles dans Dota à n'importe quel moment du jeu. Donc, c'est un jeu beaucoup plus complexe et beaucoup plus imprévisible, en fait. Il y a beaucoup moins de calculs possibles dans Dota. Il y a une partie d'imprévisible, d'improvisation et de décision non prévisible des joueurs au niveau de Dota. Donc, on doutait de la capacité de l'intelligence artificielle à vraiment tenir tête. Elle a explosé les joueurs. Alors, c'était une version un petit peu light de Dota. Il n'y avait que 18 choix de personnages contre les plus de 100 personnages qu'on peut jouer dans Dota 2 actuel. Ils vont bientôt sortir une version qui pourra jouer avec tous les personnages, mais là, ils l'avaient limité à 18. On pourra dire qu'il y avait un petit handicap quand même des humains pour le choix du personnage. Mais c'est quand même les joueurs humains ont été assez vexés et un a dit « Je me suis jamais senti aussi inutile de ma vie, mais au moins nous nous sommes amusés. » Et ils disent « On mérite un prix pour le bon esprit avec lequel on s'est battu. » Mais en gros, ils se sont pris mais une tôle, mais une grosse tôle. Hein. Je crois qu'il y a eu 5 manches, ils ont perdu les 5 ou un truc comme ça. Quoi. Bref. Donc, quand ça sera Doomsday, ne pas proposer une partie de jeu vidéo à l'intelligence artificielle en croyant qu'on va la battre. Hein. On va se faire niquer. Et un bar à la pause, il y avait des kebabs. D'ailleurs, ça me rappelle... Oleg, arrête de te moquer de mes graviers. C'est pas gentil. Il... Encore eût-il fallu que l'équipe se dotât des meilleurs joueurs. Oh là là, monsieur. C'est dingue. Ben, l'IA, je ne sais pas, elle s'entraînait déjà à jouer à Dota. On sait aussi qu'ils s'entraînent à StarCraft 2. Qu'ils ont battu un joueur humain au jeu de Go, aux échecs. Ça fait longtemps maintenant. Donc, ouais, ça progresse, hein. Elle apprend vite, hein, la conne, hein, d'intelligence artificielle. Hein. Moi, je dis, hein, un bon duel de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », je ne suis pas sûr qu'une intelligence artificielle puisse gagner. Je dis ça, je dis rien. Il y en a un qui va m'amener une machine à baffe. Allez, Jérôme, fais ton mal. Hein, je te tiens, tu me tiens. Ça, c'est un jeu où il n'y a que de la psychologie. Hein, une intelligence artificielle ne peut pas prévoir l'imprévisible. Moi, je bats l'intelligence artificielle à la course. Pas sûr, James. Je sais pas si tu as vu ce que Boston Dynamics est en train de faire en robot qui court. Hein. Pas sûr que tu les battes à la course. L'intelligence artificielle rit-elle ? Ça, c'est le prochain défi, je pense, de l'intelligence artificielle, le sens de l'humour. Ça va pas être facile. Hein. Déjà, quand on voit que certains humains l'ont pas du tout. Faire des blagues, c'est pas facile, mais c'est en fait, alors tout il y a plein de formes d'humour différentes, c'est ça qui va être compliqué. Mais par exemple, le jeu de mots, oui, une intelligence artificielle pourrait tout à fait faire des jeux de mots parce que le jeu de mots, c'est juste un esprit de synthèse et réagir assez vite, quoi. C'est une forme d'écoute secondaire, en fait, le jeu de mots. T'écoutes ce qu'on te dit, plus ou moins. Mais t'écoutes aussi les mots et ton cerveau, il réfléchit en tâche de fond et il vient coller des mots dans d'autres sens, quoi. Donc, en théorie, c'est tout à fait faisable par une intelligence artificielle. Et même, elle pourrait être bien meilleure qu'un humain au jeu de mots. Après, trouver exactement le bon moment pour placer le jeu de mots pour qu'il ait une... Parce qu'il y a ça dans l'art du jeu de mots. Un jeu de mots mal placé à une seconde près, il fait un flop, hein. Et merde, il est 9h, j'ai pas fait le dernier article. Après, l'humour, il y a une part très subjective, hein. L'humour des uns et le truc pas drôle des autres, hein. Et puis c'est très local aussi, l'humour. Ça sera pas si facile, l'humour. Peut-être certains types d'humour, mais l'humour ironique à la française, hein, quand on voit que Sheldon a du mal avec l'ironie, ça ne sera pas facile pour une intelligence artificielle. Au fait, vous êtes que 5749 à suivre Jérôme sur Instagram. Comment ça se fait? Bah oui! Pourquoi tout le monde ne me suit pas sur Instagram? Hein? C'est quoi cette histoire? Je pense que l'humour français sera plus dur que l'humour anglais. Parce que oui, le pince sans rire, c'est pas facile. Mais l'humour ironique à la française, à double sens plutôt, pas facile. Pas facile. Déjà, c'est pas facile pour un non-français. Non, j'ai pas fini les news. J'en avais une dernière. Je vous la fais ou pas? Non. Elle est pas si intéressante que ça. Je la fais pas, la dernière news. Voilà, comme ça, j'aurais fini à 9h. Je triche. C'est mon droit. J'ai le droit de tricher. Voilà. Comme ça, on aura plus de temps pour les questions à la fin. Et d'ailleurs, je regarde tout de suite si j'ai une question platinium ou pas. Non, je n'ai pas de question platinium. Non, j'avoue, on a passé beaucoup de temps sur Alex Jones. Ça valait peut-être pas le coup. Pas de question platinium. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut tricher? Là aussi, il y a différentes manières de tricher. Donc, ce ne sera pas facile. Certaines trichent, oui. D'autres, non. Ce sera très difficile. Alors après, on peut apprendre des tours. Tricher, c'est détourner l'attention. Donc, je fais ça pour que vous ne regardiez pas ce que je fais avec mon autre main. Une intelligence artificielle pourra apprendre à faire ça. Une intelligence artificielle pour travailler à ta place. Oui, ça arrive. Ça va être un problème, mais ça arrive. L'optimisation fiscale est considérée comme de la triche. Vaste débat. Moi, je vais te donner mon opinion là-dessus. Le problème de l'optimisation, c'est où est-ce que tu places le crantage optimisation et dissimulation fiscale. C'est toute la difficulté de l'exercice. A priori, si tout ce que tu fais est inscrit dans la loi, c'est de l'optimisation. Le problème, c'est que toute loi est sujette à interprétation. Donc, ça complique un peu les choses. Texcope en 30 minutes sans partir dans les graviers. Non, ça n'existera jamais. Par contre, il n'est pas exclu que j'expérimente là pendant ce mois d'août les news en 30 minutes sans vous regarder, sans regarder la chatroom. Et après un débat de 20 minutes sur un sujet. Je vais expérimenter ça. On va voir. Pour que les gens qui viennent que pour les news, ils aient un espèce de sommarion de 30 minutes, sommarion amélioré, un condensé de news, mais sans que je regarde la chatroom parce que ça me perturbe trop. Et puis après, je discute avec la chatroom. On va peut-être essayer ça. Est-ce que le sac Everyday Backpack de Peak Design peut être utilisé comme sac de collège où on met ses cahiers? Non, alors, le truc, c'est que tu vas devoir enlever les séparateurs pour la semaine et les remettre le week-end. Oui, si tu enlèves les séparateurs, c'est un sac où tu peux mettre tes classeurs. C'est quand même pas super pratique de devoir enlever ces séparateurs les jours de semaine et les remettre le week-end pour en faire un sac photo. Je te le conseille pas du coup pour un sac de cours. Hein. Ça va faire télé nord-coréenne, prévoit la tenue. Bonjour, Texcope officiel. La France parle aux Français. Pourquoi tester une daube comme le Q7 et pas un vrai challenge comme le OP6 ou le G7 ou encore le dernier HTC? Michael, je l'ai expliqué dans un texte que j'ai mis sous la vidéo. Je teste les smartphones que j'ai ou qu'on me prête et que j'en ai marre de courir après les fabricants ou de les supplier pour avoir leur smartphone. Je leur fais une putain de pub quand même en testant leur smartphone sans me faire payer. Je n'ai pas envie, peut-être que je suis trop fier, j'ai pas à me soumettre à des conditions que je trouve débiles de leur part, soit des prêts trop courts, soit devoir faire des échanges mails de 3 km de long, enfin une vingtaine d'échanges mails avant qu'ils daignent m'envoyer leur modèle, bah voilà, c'est décidé, je ne testerai que des smartphones qui sont faciles d'accès pour moi. Ça vous plaise ou non? Te vois-tu présenter le live encore 3 ans? Ne connais-tu aucune lassitude depuis le temps? Si je change la formule à la rentrée, c'est que je veux redynamiser un petit peu l'émission. C'est évident que je suis arrivé dans une certaine routine. Ça va, hein. J'ai pas de découragement ou j'en ai pas marre au point que... Il y a des matins, j'ai pas envie. Je vais pas vous le cacher, il y a des matins, j'ai pas envie, c'est normal, hein. Il y a des matins, ça me fait chier, hein, Techscope. C'est normal. Mais globalement, il y a plus de matins où j'ai quand même envie de le faire, de vous retrouver, de faire les trucs avec vous. Encore. Mais quand tu nous retrouves, tu es content quand même. Bien sûr. Non, mais là, c'est pas pour vous lécher le cul, hein. Mais ce Techscope a pour moi été quelque chose de très important pour la chaîne principale. Alors, je sais, ça peut paraître bizarre puisque c'est une chaîne secondaire, mais ce contact que j'ai avec vous tous les matins, les échanges qu'on a, c'est quelque chose qui a vraiment forgé la chaîne, qui a évité à la chaîne de devenir une chaîne putaclic avec une recherche d'audience effrénée. Je cherche plus à faire des vidéos qui vous plaisent. Et je pense vous connaître bien parce que c'est une communauté quand même que je fréquente tous les matins. Alors, après, la communauté du Techscope n'est pas exactement celle de la chaîne principale. Vous n'êtes qu'un échantillon, mais quand même. Tant pis, je vais me faire bloquer, mais super bloquer ce Techscope, mais je m'en fous. Je me mets des musiques motivantes quand j'ai pas la pêche. Et ce matin, alors, les premiers à reconnaître gagnent un bisou virtuel. Attention, je vais vous mettre le titre de ce matin. Les premiers qui reconnaissent, vous êtes prêts dans la chatroom, jeu en direct. Yes, bravo Manu. Pacific Rim, la musique de Pacific Rim. J'adore ce film. C'est un des films pour me rebooster. Il est con hein, comme film. Mais putain, quand le robot fait comme ça, ça me rebooste. Ça et l'étoffe des héros, ça me remonterait le moral, même s'il est dans les bas-fonds. Et c'est une musique débile hein, en plus. Hein. C'est vraiment la musique uplifting avec les cordes derrière et tout. Mais j'adore cette musique. Bref, si j'ai vu le 2, Oleg, c'est une catastrophe. Pacific Rim 2, on l'a regardé parce que Marion et moi, on est fans de Pacific Rim, il faut le savoir. On adore Pacific Rim. On a quand même voulu regarder le 2 pour se dire, oh, il y aura quand même des grands robots, on essaiera de. Mais même les combats de robots sont à chier, tout est à chier dans Pacific Rim 2, quelle horreur. C'est beaucoup moins Transformer que Pacific Rim, quoi. Il y a vraiment le côté Del Toro du premier, avec les monstres, le design. Il y a quelque chose. Il y a un autre film que j'adore, que vous connaissez peut-être. Merde, que je retrouve pas le nom. Où il y a des extraterrestres, insectoïdes. Qui sont nos ennemis Starship Trooper, voilà. Mais Starship Trooper 1, ne regardez surtout pas les autres. Et Starship Trooper, comprenez bien que c'est un film qui a 10 couches. Tu peux le regarder et c'est un film génial parce que c'est le hold-up d'Hollywood. Quand c'est Verhoeven, je crois qu'il a fait, je sais plus, mais quand il a sorti le film, les gens qui l'ont pris au premier degré, ils ont fait waouh, putain, c'est un bon film de guerre et tout. Après, il y en a qui ont fait, mais attendez, il est pas un peu nazi quand même comme film, c'est un peu, et justement, c'est une dénonciation totale de l'embrigadement et de l'aveuglement. Et je vous parlais du lavage de cerveau d'État. Et ben, Starship Trooper, c'est l'exemple type de, en vous mettant un ennemi aveugle, type terroriste. Là, c'est juste, c'est des insectes qui n'ont pas de cerveau et qui nous attaquent et qui ont une, donc c'est l'ennemi absolu. Comment on peut, alors là, c'est à l'échelle de la Terre, mais ça pourrait être l'échelle d'un pays. Comment on lobotomise une population pour lui faire croire que son seul but, c'est de battre l'adversaire et jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est franchement, ce film, si vous l'avez pas vu, regardez-le en n'oubliant pas qu'il faut le prendre sous les premiers degrés. Hein. C'est un film qui se cache, en fait. Bon, bref, j'ai beaucoup parlé cinéma. Starship Trooper, il est terrible. Je l'ai revu il y a longtemps. Il est très bien vieilli. C'est un film qui vieillira jamais. Son côté, en plus, le casting était parfait. Il a pris des mecs qui ressemblent à des poupées Barbie. Donc, il y a ce côté complètement surnaturel du mec avec la carnation parfaite, la mâchoire, les petites nanas. Et en même temps, ça dégobille du sang et des trucs verts. Il est génial, ce film. Je pourrais en parler des heures. Eh ben pour moi, Pacific Rim s'inscrit dans ce type de film. Voilà. Et ben Pacific Rim, il ne faut pas non plus le regarder au premier degré, je trouve. Après, attention, hein, dans Pacific Rim, il n'y a pas un message aussi fort que Starship Trooper. Que penses-tu de la nouvelle Surface ? Écoute, normalement, d'ailleurs, il faut que j'en réponde aujourd'hui. Je vais peut-être aller la découvrir, la Surface Go, vendredi. Je l'aurais peut-être pas, après, je pourrais peut-être pas la ramener à l'atelier tout de suite, mais en tout cas, je vais la découvrir vendredi, a priori. Sauf qu'il faut que je réponde aux gens de Microsoft très vite. Donc, je t'en dirai plus quand je l'aurai eu en main. C'est un produit qui m'intéresse énormément, je vous expliquerai pourquoi. Est-ce qu'on te reverra dans On refait le Mac ? Plusieurs fois, il m'a lancé des invitations. Mais à chaque fois, je pouvais pas. Donc oui, on s'entend bien et on aimerait bien faire des trucs ensemble. La Surface te manque pour préparer les news ? En fait, non, parce que là, j'expérimente la Surface pour faire autre chose au niveau du Techscope de l'émission du matin. Je vous en dirai plus tard. Ouais, non, désolé, Philippe Brunet, j'ai eu tort de comparer. Disons que c'est des films que j'aime bien regarder, mais non, Pacific Rim, c'est pas comme Starship Trooper. C'est pas un film qui a un message caché. Je suis d'accord. C'est juste, je sais pas. C'est des films que j'aime bien regarder quand j'ai besoin d'avoir la patate, quoi. Le MacBook 12 pouces, t'en penses quoi ? Pas grand chose, j'ai pas testé. Marrant ton passage sur Frandoïde. Bah, heureux que vous ayez aimé mes performances d'acteur. Est-ce que ton salon est totalement bordélique depuis que tu n'es fait plus les Techscopes ? En tout cas, mon lit n'est plus fait, ça c'est sûr. Non, mais j'ai fait une erreur en comparant Pacific Rim et Starship Trooper. C'est pas le même niveau de qualité de film quand même. Mais Pacific Rim, c'est juste pour moi un film jouissif, quoi. C'est un tour de manège de bonheur et que je trouve pas si con que ça, en fait. Il est 9h15, merci Samuel de me ramener dans le bon chemin. Demain, vous retrouvez Marion dans Techscope. Et moi, je vous retrouve jeudi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée caniculaire. Restez au frais si vous pouvez. Hein. Épongez-vous, hydratez-vous, Plongez dans la piscine si vous en avez une à proximité. Faites-vous un bain froid si vous avez une baignoire, des douches froides également. Essayez de survivre. À partir de demain, normalement, on perd 10 degrés. Dans certaines parties de la France, ça va être beaucoup plus vivable. Voilà. Donc, bon courage pour aujourd'hui, tout le monde. Et j'envoie bien le message à Microsoft. Merci, James, de me le rappeler. Comment je trouve le 50 mm f1.8 c'est très bien, très bien. C'est un très bon objectif pour commencer à avoir des vrais objectifs. Achète-le avec mon lien d'affiliation. Allez, ciao. À jeudi, tout le monde. Ciao, ciao.